grand bien vous fasse, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 10h. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct ou en podcast. Comment expliquer l'épidémie de narcissisme qui contamine nos sociétés? Comment cette pathologie s'est-elle développée comme une mauvaise algue qui altère notre relation aux autres? Que se passe-t-il vraiment dans la tête des personnalités narcissiques qui pensent qu'elles le valent beaucoup plus que les autres, qu'elles méritent un traitement spécial? Comment expliquer que cette valorisation permanente de soi soit devenue une norme acceptable? Pourquoi l'estime de soi pathogène est devenu le virus de cette contagion généralisée? Quels sont les effets de ce narcissisme pathologique dans notre vie quotidienne et sur le vivre ensemble? Pour nous aider à y voir plus clair ce matin, la psychiatre Marie-France Irigoyen et la journaliste Christina Pelédouel de Psychologie Magazine, notre partenaire ce matin, et avec nous également, bien évidemment, Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Et vous, comment expliquez-vous ce narcissisme pathologique qui contamine nos sociétés? Quels sont les exemples autour de vous qui vous frappent le plus? Quelles sont vos solutions pour enrayer cette épidémie? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Bien Vous Fasse et l'appli France Inter. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
En couverture de Psychologie Magazine.
Ça c'est pas bon pour le narcissisme.
J'aime cette main négligemment posée sur votre joue. Alors vous n'avez pas votre fameux pull orange sur cette couverture. Bon allez, plus sérieusement, vous avez beaucoup de choses à nous raconter dans vos choses vues sur les narcisses qui prolifèrent.
Ouais, et je vous parlerai notamment du vers du narcissisme dans le fruit de l'humanisme.
A tout à l'heure, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse, la vie quotidienne, mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien Vous Fasse, Ali Rébéi.
Allez, pour nous aider à comprendre l'épidémie de narcissisme qui fait du mal à nos sociétés, Marie-France Irigoyen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychiatre, psychanalyste. On se souvient de votre livre majeur, il y a 20 ans déjà, Le harcèlement moral. Et vous publiez aujourd'hui à la découverte un livre très intéressant, Les narcisses. C'est quoi un narcisse? Quel est son portrait robot?
Alors, il y a plusieurs formes de narcissisme. On pourrait dire qu'il y a le narcisse grandiose, c'est celui que l'on repère le plus facilement parce que ce sont des gens qui se mettent en avant, qui ont toujours des solutions à tout, qui savent tout mieux que tout le monde, qui sont arrogants et qui se retrouvent au premier plan. Alors, un des exemples réellement caricatural, c'est Donald Trump. Donc là, on est dans le narcissisme grandiose. À côté de ça, il y a des narcisses plus difficiles à repérer, qui sont les narcisses vulnérables, avec des sous-groupes. Il y a ceux qui sont hyper conformes dans une fausse modestie, et il y a ceux qui sont leur mégalomanie n'est pas suffisamment reconnue. Alors ils se sentent persécutés, ils ont l'impression qu'ils sont incompris et ça peut aller vers de la haine et même de la violence, en particulier sur les réseaux sociaux. Et en fait, il y a une troisième forme de narcissisme qui est le pervers narcissisme, le pervers narcissique dont je parlais dans le livre sur le harcèlement moral, le premier. Et qui, en fait, c'est pas nouveau, ça n'a pas été inventé en France, contrairement à ce que l'on peut dire, si ce n'est que la terminologie pervers narcissique vient de la d'un psychanalyste français. Mais déjà, les psychanalystes américains qui avaient travaillé sur le sujet parlaient de malignant narcissism, c'est-à-dire du narcissisme malveillant. Et ça, c'est le registre où tous ceux qui peuvent être un obstacle, au fond, ces gens-là se grandissent au détriment des autres. Et tous ceux qui peuvent être des obstacles à leur carrière, à leur mise en avant, eh bien ceux-là, il faut les écraser, il faut les disqualifier, et il faut avant utiliser, aspirer, je dirais, tout ce qu'ils peuvent avoir à apporter. On se sert des autres, au fond.
Alors, dans le Robert, le narcissisme, c'est la contemplation, l'admiration de soi-même. Et chez les psychiatres, les psychologues, les psychanalystes, les philosophes, les sociologues, il existe de nombreuses définitions du narcissisme.
Oui, en fait, il faut remonter un peu à la genèse de ce terme. Ça a été un terme qui a été d'abord découvert par Freud, enfin nommé par Freud, d'abord à propos de l'homosexualité masculine. Bon, assez vite, il est revenu là-dessus. Il a considéré qu'il s'agissait d'une étape du développement d'un enfant. Au fond, on passe par deux étapes essentielles. Le narcissisme primaire, c'est ce que Freud appelait Sa Majesté le bébé. L'enfant, au départ, est le centre du monde. Il suffit qu'il crie et on vient le nourrir, qu'on vient le changer. Et donc, c'est la béatitude où l'enfant est le centre du monde, mais il ne fait pas la distinction entre lui et son entourage. Pour moi et les autres, c'est pareil. Je suis le centre du monde. Ensuite, on passe normalement à une phase de narcissisme secondaire, c'est-à-dire que l'enfant découvre le monde extérieur, le monde extérieur l'enrichit, il revient sur lui-même. Alors il investit des objets externes, puis il revient sur lui-même et à chaque fois il s'enrichit. Un narcissiste pathologique serait quelqu'un qui serait resté à la phase du narcissisme primaire. C'est pas pour rien que les cartoonistes américains représentent presque toujours Donald Trump
en gros bébé
avec des couches, oui. Et je crois que c'est vraiment ça.
Alors tout au long de la journée, nous croisons des narcisses pathologiques, de la personne qui vous passe devant dans la file d'attente en raison de sa supposée importance, en passant par celui qui prend toute la place dans le train sans s'excuser parce qu'il le vaut bien. Toute la journée, on en croise.
Oui, alors, des narcisses, il y en a partout. Ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est qu'il y en a de plus en plus. Ce qui n'est pas complètement nouveau, puisque les psychiatres et psychosociologues américains avaient déjà dénoncé le narcissisme pathologique aux États-Unis. Il y a même un livre qui parlait de l'épidémie de narcissisme aux États-Unis. Si ce n'est qu'avec la mondialisation, la globalisation, c'est partout maintenant. Et que donc, ces gens-là se croient tout permis, et il y en a partout.
Dans votre cabinet, vous croisez beaucoup de patients narcissiques avec des conséquences désastreuses dans leur vie ?
Alors, en tant que psychiatre et psychanalyste, nous recevons peu les grands narcisses grandioses. Parce que ceux-là, ils ne se remettent pas en question, ils ont raison. Et d'ailleurs, ils nous méprisent absolument.
Vous n'avez rien compris.
Bah non, on est nuls de toute façon. Et d'ailleurs, les quelques qui viennent nous voir viennent pas pour ça. Ils viennent pour démontrer qu'ils sont supérieurs à nous et ils viennent pour essayer de nous humilier.
Qui vient vous voir alors ?
Alors, on en reçoit quelques-uns qui viennent à cause des conséquences de leur comportement qui à un certain moment amène un revers négatif. Ils se font plaquer par exemple, ou bien à un moment ils chutent parce que le narcissisme grandiose c'est du toujours plus jusqu'au moment où eh bien on se fait prendre et on se fait repérer comme tel. Mais par contre, on reçoit beaucoup les narcisses vulnérables qui sont soit dans des plaintes pour harcèlement moral, par exemple, quelquefois des plaintes abusives, ça c'est autre chose, soit parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont incompris. Et ceux-là, nous les recevons.
Christophe André.
Oui, c'est un univers passionnant, cet univers des narcisses, et c'est vrai que on pourrait appeler ça au fond des dérèglements du rapport à soi, et on connaît tous les différents visages que peuvent prendre ces dérèglements. Hein. Il y a l'égotisme, l'égocentrisme, l'égoïsme, le narcissisme. Alors peut-être moi, souvent pour essayer d'expliquer ça quand on me pose la question, je dis voilà, imaginez que vous êtes à table, si vous êtes égocentrique, vous vous servez en premier, mais vous en laissez aux autres. Si vous êtes égoïste, vous vous servez de tout ce dont vous avez besoins, que les autres, qu'il leur en reste ou pas, vous en foutez. Et si vous êtes narcissique, vous comprenez même pas que les autres puissent manger au même plat que vous. Quoi.
Christine Appelidouel, chef de la rubrique Livre à Psychologie Magazine. Bonjour,
bonjour
Psychologie Annie. Magazine qui est notre complice ce matin. Quoi de neuf avec le livre de Marie-France Irigoyen? On a vu passer beaucoup de livres sur le narcissisme ces dernières années.
Eh bien, je pense que le livre de Marie-France Irigoyen a plusieurs grandes vertus. La première, c'est que c'est un travail vraiment de fond, absolument articulé, argumenté et d'une richesse extraordinaire, enfin qui permet de vraiment comprendre ce phénomène. Et d'autre part, c'est un livre qui permet de bien éclaircir les idées sur ce sujet, parce que ce mot narcisse, narcissique, pervers narcissique, s'est mis vraiment à toutes les sauces, dans les livres, dans les conversations, dans les émissions, tant et si bien qu'on ne sait plus exactement de quoi on parle, ni de qui il s'agit. Or, les distinctions très argumentées qu'opère Marie-France Irigoyen permettent vraiment de bien comprendre de quoi il s'agit, de bien comprendre à qui on a affaire. Et c'est ça qui fait toute la différence, parce que on a des exemples récemment de livres qui ont mélangé toutes les notions. Or, ce sont des notions vraiment, d'abord des notions psychiatriques. Hein, et Marie-France Irigoyen insiste bien sur le fait que dans le cas des narcisses grandioses, il ne s'agit pas d'une psychose, mais il s'agit d'un trouble, ce qui n'est pas la même chose. On a tendance vraiment à tout globaliser, tout mélanger, oui, il devrait aller se faire soigner, etc. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Donc c'est beaucoup plus clair une fois qu'on a lu son livre.
Tiens, c'est quoi un trouble, justement, Christophe André?
Mais effectivement, Marie-France parle du regard psychanalytique, et c'est vrai que son livre est très intéressant parce que, selon notre jargon, il est plein d'exemples cliniques. C'est-à-dire, on sent effectivement quelqu'un qui a pratiqué et les narcissiques et l'entourage des narcissiques qui a mesuré le poids des souffrances chez les uns et chez les autres. Les narcissiques, c'est pas cool d'être un narcissique. Extérieurement, ils sont flamboyants. Parfois, ils arrivent à conquérir le pouvoir, à faire envie. Intérieurement, c'est toujours du stress, de la compétition, de la surveillance, des comparaisons, donc c'est assez épuisant. D'ailleurs, les quelques études qu'on a sur la santé des narcissiques montrent qu'ils paient quand même un tribut relativement élevé. En psychiatrie aussi, on parle de narcissisme, on appelle ça des troubles de personnalité, c'est-à-dire effectivement, ce sont des façons d'être pathologiques, rigides, dont souvent les gens ne se rendent pas clairement compte. Et dans le narcissisme, il y a effectivement la boursouflure de l'ego, cette espèce de sentiment pathologique de sa supériorité, le sentiment aussi d'avoir des droits supérieurs à ceux des autres, et c'est là que les ennuis commencent. Effectivement, moi j'ai des droits que toi tu n'as pas parce que je te suis supérieur, une hostilité rapide dès qu'on se met en travers de leur chemin, qu'on les critique, qu'on les contredit, qu'on est un peu en compétition avec eux, et un niveau de stress très élevé.
Question de Marie-Laure Zonshein de Femme Actuelle.
Oui, vous évoquez dans votre ouvrage la différence entre hommes et femmes sur ce point de vue. C'est vrai qu'en lisant, on dit, ah oui, c'est vrai, quand on pense aux narcisses, on pense aux hommes. Sauf que vous l'expliquez, il y a deux cases finalement que les femmes ne cochent pas parce que pour l'instant la société ne leur permet pas et donc elles n'accèdent pas à ce statut de narcisse grandiose, c'est la légitimité et le leadership.
Oui, alors toutes les statistiques montrent qu'il y a beaucoup plus de narcisses hommes que femmes. Effectivement, elles peuvent être à peu près à égalité sur le plan de l'apparence, de l'image extérieure, mais par contre sur le plan du leadership, pas du tout. Je crois que ça tient à la société. Nous construisons le narcissisme, et donc la société a toujours mis les femmes au second plan et les hommes au premier plan. C'est pas impossible que ça change, parce que là, les femmes commencent à monter en puissance, et rien ne dit qu'à un moment, elles seront pas tout aussi narcissiques que les hommes.
Allez, comment expliquez-vous l'épidémie de narcissisme qui contamine nos sociétés? Quels sont les exemples concrets autour de vous? 01 45 24 7000. Sans oublier la page Facebook de Grand Mets Vous Fasse. Alexia Rivière et Alexia Lacour m'ont aidé à préparer cette émission avec Nicolas Beauve, et c'est réalisé par David Le Prince. Et c'était un titre dédié à Marie-Laure Sunshine et ses jeunes années. Blondie, Call Me.
César a tout réussi, tout conquis.
Grand bien vous fasse.
C'est un guépard, un samouraï. Avez-moi.
Sur France Inter.
10h25, comment expliquer l'épidémie de narcissisme qui frappe nos sociétés? Question posée avec Psychologie Magazine, notre partenaire ce matin, 01 45 24 7000. Écoutons un chef d'État empli d'humilité.
Je pourrais être au milieu de la 5e avenue et tirer sur quelqu'un, je ne perdrais pas un seul électeur. Ok, c'est genre incroyable. Ce qui est beau chez moi, c'est que je suis très riche. Nous allons créer des emplois, je l'ai dit. Je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu a jamais créé. Ensemble, nous déterminerons le parcours de l'Amérique et du monde pour les nombreuses années à venir.
Florilège du président américain Donald Trump, Marie-France Hérigoyen, je rappelle que vous êtes psychiatre et que vous publiez Les Narcisses. Pourquoi Donald Trump est-il, selon vous, le parangon du narcissisme pathologique? Même chez un non-spécialiste, on sent bien que quelque chose ne va pas.
Ça, c'est sûr. Pour mesurer le narcissisme, les Américains, enfin la classification internationale des maladies mentales, qui a mis en place le DSM-5, qui mesure uniquement le narcissisme grandiose. Et là, si on prend ces questions, le questionnaire, les 9 critères selon cette classification, Donald Trump coche absolument toutes les cases. Il est tellement caricatural que je me dis que ça ne peut que amener des réactions, parce qu'on ne peut pas ne pas le voir. Et d'ailleurs, il y a des psychiatres et psychanalystes américains qui avaient fait une pétition pour dénoncer sa pathologie. Comment peut-on être à la tête d'un grand pays si on est aussi pathologique?
Alors, je rappelle que en août 2016, l'Association américaine de psychiatrie a condamné la pratique d'un diagnostic à distance. Selon cette association, diagnostiquer une personnalité publique sans examen approprié, sans autorisation, est contraire à l'éthique médicale. Et lors d'une conférence à l'école de médecine de Yale, aux États-Unis, 27 psychiatres et psychologues ont tout de même alerté les Américains sur la dangerosité de la personnalité de Donald Trump. Alors, pour bien comprendre ce qu'est le narcissisme pathologique, appuyons-nous donc sur le président Trump et sur les critères de ce narcissisme. D'abord, un sens grandiose de sa propre importance.
Donald Trump dit clairement qu'il est plus beau, que tout en lui est supérieur aux autres. Il parle même de certaines parties de son anatomie qui est particulièrement spéciale. Il parle de son intelligence qui est supérieure. Donc, il n'a aucun doute là-dessus. N'importe quelle autre personne aurait honte de se valoriser autant.
Deuxième grand critère, être absorbé par des fantaisies de succès illimité, de pouvoir, de splendeur.
Oui, il a toujours pensé qu'il était capable de tout ça. Il avait dit bien avant les élections, il avait dit « mais moi, il suffirait que je m'y mette en quelques heures, je saurais tout sur le Pentagone, je saurais tout sur... c'est très facile, mes capacités sont supérieures, me permettent tout ça. »
Troisième critère du narcissisme pathologique, penser être spécial.
Oui, alors, je suis au-dessus des autres, et donc je ne peux être compris que par les grands. Donc, les seuls interlocuteurs possibles pour moi sont des chefs d'État et encore les meilleurs, pas les petits européens, par exemple, que je ne connais même pas.
Avoir un besoin excessif d'être admiré.
Alors ça, c'est vraiment la caractéristique des narcisses en général. C'est-à-dire, je n'existe que par le retour le regard que l'on a sur moi. Donc, si on doit m'admirer, sinon je ne suis rien. Donc, il y a besoin de se mettre en avant pour être admiré. On voit que Donald Trump, par exemple, quand il est allé voir le jeune président coréen, l'a mis en scène, avait fait du teasing avant pour y arriver, et donc il a besoin de ça.
Penser que tout lui est dû.
Bah oui, c'est normal, je suis le meilleur, donc c'est normal que je sois reçu. Et d'ailleurs, je peux me permettre, par exemple, d'être élu, mais de ne pas donner mes impôts, de ne pas donner, de déroger à cette règle qui consiste à faire part de ses impôts.
Plus grave, exploiter l'autre dans les relations interpersonnelles.
Oui, alors ça c'est typique des narcisses grandioses. L'autre ne m'intéresse que s'il m'apporte quelque chose. Alors Donald Trump a par exemple une femme trophée, Melania, qui est belle, mais qui est un peu posée là pour être belle, pour servir à ça quoi.
Le manque d'empathie.
Bah oui, les autres ne m'intéressent pas. Je peux ces émigrés, qu'est-ce que c'est ? Et puis les noirs, les femmes. Les femmes, on les attrape par le comme oui. ça.
Enfin, par le pussy pour.
Pussy, pour, voilà.
Par le vagin pour parler.
Comme ça. C'est-à-dire qu'ils ne respectent personne.
Ouais. Et puis les comportements arrogants et hautains.
Alors, bah oui, il y a qu'à le voir. Disqualifier, mépriser toutes les personnes qui pourraient le contester. Alors là, il a eu une victoire récente, mais bon.
Avec le rapport Mueller,
avec le rapport Mueller,
des relations avec la Russie. Christophe André.
Oui, il a aussi ceci de fascinant, Trump, c'est que toutes ces caractéristiques, il les affirme de manière éhontée. Il ne cherche même pas à faire semblant, parce qu'il y a des très grands narcissiques qui avancent à visage un tout petit peu couvert quand il y a des caméras, quand il y a des journalistes, etc. Mais alors lui, c'est zéro filtre. On y va, on balance. C'est quelque chose d'extraordinaire.
Oui, mais je crois qu'il y a une différence. Justement, c'est très important parce que Donald Trump n'a pas honte. Or, les narcisses vulnérables sont aussi mégalomanes, mais eux, ils sont accessibles à la honte. C'est-à-dire que ils sont... Je suis le meilleur, mais je sais au fond de moi que je ne suis pas tout à fait
oui,
ça.
Oui, oui.
Et je travaille beaucoup pour essayer d'être encore meilleur, pour être à la hauteur. C'est toute la difficulté dont tu parlais tout à l'heure. C'est être à la hauteur de l'image que je dois avoir de moi. Et si j'ai pas ça, j'ai honte. Donc, Donald Trump n'a jamais honte.
Oui, ce qui est très intéressant, c'est que tout ce que vous dites révèle en réalité une immense fragilité dont on n'a pas conscience quand on voit un Trump, on n'a pas du tout l'impression qu'il puisse être fragile. Et pourtant, c'est ce que vous analysez très très bien dans votre livre, les failles sont immenses.
Alors, et Mia, pour aller dans ce sens-là, oui. Mia, sur notre page Facebook, nous demande, le narcissisme pathologique n'est-il pas l'expression d'un ego blessé ?
Ah, c'est complètement l'image d'un ego blessé. Au fond, si on reprend la genèse, les explications psychanalytiques, ce serait des enfants qui auraient été blessés dans la construction de leur narcissisme dans la première phase. Ce qui se passe, c'est qu'un narcissique est quelqu'un qui a au fond une image extrêmement dévalorisée de lui-même et qui en permanence est en train de rehausser cette image dévalorisée. Mais alors c'est un peu comme si c'était construit sur du sable, il faut en permanence en rajouter et donc c'est un travail sans fin de se rehausser.
Sébastien nous dit sur notre page Facebook, le narcissisme, c'est œdème de l'ego, ou comment compenser un gros manque de confiance en soi ou un abandon refoulé par un besoin de reconnaissance sociale, coûte que coûte. Bonjour Laetitia, vous appelez des Hauts-de-Seine, bienvenue.
Bonjour.
Alors, quelle est votre réflexion sur notre thème du jour ?
Alors, ma réflexion est la suivante. Vous parlez donc de contamination de comportements narcissiques dans nos sociétés, si j'ai bien compris. Et donc moi, quand je me regarde un tout petit peu, de temps en temps, je fais une introspection. C'est vrai que de par mon parcours professionnel et personnel, je crois avoir eu affaire à pas mal de comportements narcissiques. Et lorsque j'allais voir des thérapeutes X ou Y, leur réaction était de me dire « protégez-vous » ou des amis ou des proches. Et du coup, cette protection qui est en regard de ces comportements narcissiques qui nous entourent, sur ce comportement de winner qu'on a tous, de nous passer devant la boulangerie, etc., ou dans le travail, de nous écraser, ou d'avoir une emprise sur soi quand on est dans un rapport affectif, ce mode de protection qu'on nous demande d'avoir ou qu'on a spontanément, du coup, me fait penser que, du coup, ces comportements narcissiques génèrent d'autres comportements narcissiques et qu'au final, cette société individualiste dans laquelle nous vivons, qui demande de la protection et d'être gagnant et de réussir sa vie, nous fait adopter nous-mêmes des comportements narcissiques.
Très bonne réflexion voilà, de Laetitia, Marie-France Irigoyen.
Oui, en fait, la vraie difficulté, c'est que effectivement, le narcissisme a augmenté parce que notre société capitaliste, notre société de performance, de consommation, de réussite, nous amène à être tous plus narcissiques, c'est-à-dire ça vient accentuer les traits narcissiques que nous pouvons avoir, mais aussi ça sélectionne les plus narcissiques pour les plus hauts postes. C'est-à-dire que des narcissistes, il y en a partout, mais que nous devenons, nous construisons encore plus de narcissisme.
Christophe André.
Oui, ça c'est un thème très important. C'est, est-ce que la société peut réguler ? Est-ce que finalement, ce que disait Laetitia, si on gueulait sur les gens qui nous doublent à la boulangerie, si on se laissait moins faire au travail, est-ce qu'on arriverait à freiner un petit peu cette épidémie narcissique ? Alors probablement oui pour les comportements narcissiques. C'est vrai que la société dans laquelle nous vivons, incontestablement, nous incite à adopter des comportements narcissiques. Par contre, pour les troubles de la personnalité narcissique, cela, c'est plus compliqué d'imaginer pouvoir les changer. Je pense que c'est ce que voulaient dire les thérapeutes quand ils disaient à Laetitia, protégez-vous. Si on est face à un vrai narcissique, attention, parce que ça peut être épuisant. Par contre, des comportements narcissiques fréquents, là, on peut peut-être s'opposer à eux plus souvent qu'on ne le fait.
Merci beaucoup, Laetitia, pour votre réflexion. Béatrice nous demande quelle est la frontière entre la confiance en soi et le narcissisme.
Alors ça, c'est toute la difficulté. Moi, je trouve que beaucoup de psys actuels font un amalgame entre le narcissisme et la confiance en soi. En gros, le narcissisme comporte trois parties, l'amour de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Il y a cette idée que l'amour de soi, c'est quelque chose qui est très lié au regard que nos parents portaient sur nous et qui ont permis d'avoir suffisamment une bonne image de soi. L'estime de soi, c'est aussi savoir ce que l'on vaut. C'est quelque chose qui est assez stable. Je suis, par exemple, pouvoir se dire, même si j'ai des fragilités, même si j'ai tel défaut, je suis plutôt quelqu'un de bien. Ça serait avoir une bonne estime de soi. Et la confiance en soi, c'est quelque chose qui est complètement lié à l'environnement social. C'est-à-dire, il y a une partie qui est liée à ce que l'on a, la façon dont on a été élevé, qui est donc un peu inné. Et puis, il y a une partie qui est complètement liée au retour que l'on peut avoir. On va dire que c'est l'individu socialisé. Or, on est dans un monde où on vous demande en permanence d'être plus et que si vous ne vous mettez pas en avant, vous n'êtes rien. Et on voit bien avec les réseaux sociaux, dans certaines professions, si vous n'êtes pas très visible, ben vous n'êtes rien.
Et pour compléter ce que vient de dire Marie-France, effectivement, dans la confiance en soi ou dans l'estime de soi, il n'y a pas a priori de désir de rabaisser l'autre, de désir de mettre l'autre plus bas que nous. C'est simplement la conscience de ses capacités et aussi de ses limites, ce que n'a pas le narcissique.
Ouais.
Christine Appel-Edouard.
Oui, et c'est vrai que ce genre de personnalité, en effet, on les voit de plus en plus. Vous disiez tout à l'heure que vous avez de plus en plus de consultations de ce type, mais il y a une question qui s'impose en parlant d'environnement social. Il y a la question de l'éducation, qui est une question absolument fondamentale dans le développement de ces personnalités narcissiques. Christophe évoquait tout à l'heure le développement de ce nombre de parents qui sont persuadés d'avoir mis au monde des enfants surdoués. Hors antenne, oui, pardon. Je crois que on est face, en effet, à des phénomènes qui vont en se multipliant.
On évoquera cette question après la chronique de Christophe André. Allez, c'est l'heure des choses vues.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre ?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute ?
Choses vues.
Christophe André, un sujet en or pour vous, la question du narcissisme dans votre vie quotidienne.
Absolument. Alors, vous savez, de manière générale, quand le mot « ego » apparaît dans une conversation, ce n'est pas bon signe. Et ce n'est pas bon signe non plus que nous disposions en psychologie de très nombreux termes pour évoquer tous les dérapages du « moi-je ». Il y a par exemple l'égocentrisme, cette tendance à placer volontiers au centre de tout rayonnement et de toute discussion, à considérer ses intérêts avant ceux des autres. Un cran au-dessus, et voici l'égoïsme et sa devise « après moi le déluge ». Une fois nos besoins satisfaits, on se fiche bien de ce qui arrivera aux autres. Enfin, il y a le narcissisme, un égoïsme important, une surévaluation de sa valeur, autrement dit un complexe de supériorité, qui s'accompagne de mépris pour autrui et de droits que l'on s'arroge de ce fait. Droit de parler plus que les autres, puisqu'on dit des choses plus intelligentes, droit de dépasser tout le monde dans les files d'attente, puisque notre temps est plus précieux, droit de rouler plus vite sur la route, puisqu'on conduit mieux, etc. Dans le narcissisme, il y a combinaison d'égoïsme, de sentiment de supériorité et d'une relative amoralité. Bon, c'est vrai que les narcissiques sont par ailleurs des personnages fascinants avec lesquels on fait des bons films ou de bons romans. C'est vrai qu'il y a parfois des comportements ou des paroles narcissiques qui peuvent être drôles, comme cette phrase d'Alexandre Dumas à propos d'une soirée mondaine un peu terne. « Ma foi, si je n'avais pas été là, je me serais bien ennuyé. » Mais globalement, les comportements narcissiques provoquent tout de même plus de mal que de bien. Et malheureusement, beaucoup de chercheurs en psychologie pensent que nous assistons aujourd'hui à une véritable épidémie de comportements narcissiques dans les sociétés occidentales. Dès 1966, Jacques Dutronc l'évoquait dans une chanson devenue depuis culte.
700 millions de Chinois, et moi, avec ma vie, mon petit schéma, mon mal de tête, mon boîte au foie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie. 80 millions d'Indonésiens, et moi. Avec ma voiture et mon chien, son canigou quand il aboie, j'y pense et puis j'oublie, c'est la vie.
C'est la vie, et la vie depuis toujours nous apporte donc son lot de personnalités narcissiques. C'est pourquoi de tout temps, les sociétés humaines, allergiques au narcissisme, à l'ego, à l'orgueil, avaient mis en place de nombreux garde-fous pour décourager les vocations et raboter un peu les égos. Ainsi, les Grecs mettaient en garde contre l'hubris, ce sentiment d'orgueil démesuré qui conduisait aux catastrophes. On se souvient aussi des généraux romains qui, lorsqu'ils avaient droit à un triomphe dans Rome, se faisaient acclamer par la foule à la tête de leurs armées victorieuses. Mais sur leur char, un esclave brandissant la couronne de laurier au-dessus de leur tête devait leur répéter régulièrement « Memento mori », « Souviens-toi que tu vas mourir », sans doute histoire de calmer un peu leur ego. Pendant longtemps également, on ne célébrait pas les anniversaires. Et effectivement, en quoi le jour de notre venue au monde mériterait-il festivités, cadeaux et acclamations? Et puis, la révolution humaniste est arrivée au XVIIIe siècle, prenant l'humain pour fin et valeur suprême, visant à son épanouissement et au respect de sa dignité. C'était une avancée merveilleuse. Les droits de l'individu devenaient les égaux de ceux des groupes sociaux auxquels ils appartenaient. Toute personne devait être considérée et respectée sans avoir à se sacrifier à la loi de sa famille, de son village, de sa patrie. Et peu à peu, l'ego et le moi-je en ont profité pour relever le bout de leur nez. Puis, une fois que la société de consommation s'en est mêlée, s'apercevant que chatouiller l'ego, l'inquiéter, le flatter, le manipuler, lui dire « parce que tu le vaux bien », tout cela faisait vendre, alors le détestable ver du narcissisme allait s'installer dans le beau fruit de l'humanisme. Et aujourd'hui, ce travail est parachevé par la grande flambée narcissique sévissant sur les réseaux sociaux où chacun s'étale. Un vrai narcissisme de dingue, dirait notre président. Mais aucune vie en groupe ne résiste longtemps à la montée des égoïsmes. Aucune société ne peut se passer d'altruisme. Alors on peut prédire, sans trop de risques, dans les années qui viennent, un grand coup de balancier de l'autre côté. Du côté du respect des règles et des valeurs indispensables à la survie de tout groupe humain, que ce soit dans l'éducation, la politique ou l'entreprise. Le règne de l'ego boursouflé devrait donc bientôt s'achever. Et vous, chère Alice, ça vous agace les gens qui commencent toutes leurs phrases par « Eh bien moi, je ».
Ben, j'y échappe pas. Hein. Désolé, Christophe André.
Moi, j'y échappe pas.
Moi, je n'y échappe pas. Les choses vues de Christophe André à voir en vidéo sur la page Facebook de Grand Mais Vous Fasse et sur le site de France Inter. Dans quelques instants, on continue à explorer les racines du narcissisme pathologique. Et vous, comment expliquez-vous cette épidémie qui fait gonfler l'ego et le reste? 01 45 24 7000.
Tu aimerais te
perdre au pas de la foule, au bras d'une rivière ou d'autres amours. Ne plus tenir ce que t'as laissé passer, redevenir comme autrefois plus léger. Elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel à la renverse, dans chacun de tes gestes. Elle ne te quitte pas. Toi tu voudrais tailler la plaine en apache, te libérer d'un cri de toutes tes attaches, pour aller où, aller où, aller où, visage pâle, dans une tour d'ivoire en rase campagne. Mais elle ne te quitte pas, sous chaque pluie que tu traverses, sous chaque ciel elle te rend. Chacun de tes gestes, elle te prend le vitesse.
Interprété à Pâche.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
10h46, comment expliquer l'épidémie de narcissisme qui contamine nos sociétés. Émission collaboration avec Psychologie Magazine, standard ouvert au 01 45 24 7000. Alors il y a quelques semaines dans cette émission, je citais ces quelques lignes de L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. Toutes ces conneries du style « chacun de nous peut être extraordinaire et devenir génial » ne sont là que pour te passer la brosse à reluire. J'appelle ça se masturber l'ego. Le message a une valeur agréable, tu t'en régales, mais il est fait de calories vides qui t'engraissent l'ego et tu te trouves ballonné de la cervelle. Chrysilla Pelédouel, est-ce que certains discours psy n'encouragent pas au narcissisme pathologique?
Ben, je me sens un peu mal à l'aise d'en parler, entouré par deux.
On ne parle pas de Christophe André ni de Marie-France Rigoyant.
Oui, bien sûr que oui, bien sûr que oui. Mais ces discours psy-là sont le pur produit aussi de la société totalement narcissique et égotiste.
Et de performance.
Et de performance dans laquelle nous nous trouvons. Ils viennent, renforcer tout ce discours-là, en disant aux gens qui viennent les consulter et qui sont peut-être en état justement de fragilité, etc. Mais si, allez-y, vous aussi, comme disait Christophe, vous le valez bien, etc. Et puis, le nombre de publications sur ce thème qui se sont développées, de la nécessité d'être au mieux, de soyez plus que vous, soyez au mieux de vous-même.
La meilleure version de vous-même.
La meilleure version de vous-même, enfin des injonctions qui sont d'ailleurs des injonctions paradoxales, parce que ça doit plonger, je pense, à un certain nombre de gens dans des états d'angoisse terribles.
Il y a un best-seller aussi qui avait cartonné dans le monde entier, qui s'appelait « Pouvoir illimité ». Ah oui. Ah, alors ça, faut pas dire ça, narcissique. Hein.
Oui. Marie-France Rigoyen.
Oui, en fait, quand même, les nouvelles technologies avec tout le monde moderne nous donnent aussi à penser que tout est possible. C'est-à-dire, je peux améliorer mon intelligence, je peux améliorer mon physique, je me fais réparer de partout. Et à partir de là, on a le sentiment qu'on peut se construire. Et en fait, ces personnes qui sont au fond basées sur du vide à l'intérieur, c'est creux, elles ont besoin de se servir de toutes ces prothèses extérieures pour devenir mieux pour devenir quelqu'un d'exceptionnel. Donc c'est complètement construit.
Marie-Laure Zonshain, de Femme Actuelle.
Si on reprend tout depuis le départ et on va revenir dans le cercle familial, vous parliez tout à l'heure du narcissisme primaire et de la phase normalement qui suit, vous l'avez dit, qui est la phase secondaire. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant ne passe pas à la secondaire? Quelle est la responsabilité, le mot est peut-être mal choisi, des parents?
Et puis, pour aller dans le sens de Marie-Laure Zonshain, pour vous, l'épidémie de narcissisme puise en partie sa source dans l'éducation des enfants, en particulier dans le culte de l'enfant roi.
Oui, alors il y a deux pistes là. Une première piste qui est l'hypothèse des psychanalystes qui ont travaillé sur le narcissisme, qui serait qu'il y aurait eu un traumatisme au moment de la phase de narcissisme primaire, du passage du narcissisme primaire au narcissisme secondaire. Un enfant qui n'aurait pas été vraiment investi par le parent, soit qui aurait été rejeté, mais aussi qui aurait eu un parent trop narcissique, où l'enfant n'aurait existé que comme un objet de valorisation. De plus en plus, on a ça, puisque de plus en plus, on a le besoin de faire des enfants pour faire des enfants, c'est-à-dire je ne vaux que par ma progéniture. L'autre phase, c'est l'éducation que l'on donne à ses enfants. De plus en plus, on élève des enfants sans limite. Sans frustration, bien sûr. On veut en faire des petits rois ou des petites princesses. D'ailleurs, il y a plein d'enfants américains qui s'appellent unique, ou princess, ou prince. Je suis spécial, donc on revient à la définition du narcissisme grandiose. Ces enfants que l'on valorise à tout prix,
qu'on surévalue
très très tôt, on leur fait passer des tests, et donc nous avons un enfant surdoué que l'on valorise, mais on les valorise, tu es mieux que les autres, on lui dit pas tu dois te construire avec les autres et apprendre à échanger avec les autres, tu es au-dessus de tes petits camarades, tu es mieux que ça. Alors on leur fait faire plein d'activités, on les construit, ces enfants-là, mais comme on leur met pas de limites, ils deviennent des enfants tyrans. Et on a des parents qui viennent nous voir simplement parce qu'ils sont débordés à un certain moment, parce que l'enfant est devenu complètement tyrannique.
Christophe André.
Oui, on est vraiment responsable quand même des messages éducatifs. Moi, j'ai un ami qui est un type bien par ailleurs, mais qui fait des petites erreurs éducatives. Un de ses fils passait un concours très difficile et il lui avait demandé d'écrire au feutre sur le miroir de sa salle de bain « Je vais tous les niquer ». Donc, on voit un peu l'état d'esprit quand même. La collaboration est à un niveau extrêmement maigre dans ces cas-là.
Annie nous dit sur notre page Facebook que je donne des cours particuliers et quand j'entre dans la chambre de nombreux adolescents, eh bien, je suis frappé de voir le nombre de photos qui y sont exposées, belles images, bien encadrées et qui représentent exclusivement l'enfant seul, l'ado seul sur la photo. Et puis Frédéric nous demande, quand on a deux parents narcissiques et égocentriques, qu'est-ce qu'on devient ? Christophe André.
Ah ben, là, c'est les grands mystères de la psychologie. Alors, parfois, on devient aussi narcissique que parfois, ils deviennent des contre-modèles. Pour nous, on voit les catastrophes que ça provoque chez eux, sur nous, en famille, et on décide de prendre le contre-pied.
Oui, mais souvent, c'est des contre-modèles. Oui, justement, avoir des parents trop narcissiques, soit on est complètement écrasé et on n'est plus rien, soit, au contraire, on devient quelqu'un, justement, dans le contraire de ce modèle-là.
Alors, le narcissique a besoin d'être reconnu dans sa singularité. Qu'est-ce qui se passe quand il se heurte au mur de la réalité? Quand il estime ne pas être reconnu à sa juste valeur, notamment en cas d'échec personnel?
Alors, le narcissisme, c'est quelque chose qui est une sorte de le narcissisme pathologique, c'est quelque chose qui est un cercle vicieux, c'est-à-dire que au début, ça marche. On est bon, on est reconnu, on a le meilleur job, on est au premier plan, on séduit tout le monde, c'est merveilleux. Et puis, il faut en faire toujours plus, et il y a un moment où on se heurte quand même à sa fragilité, et à ce moment-là, on est obligé de tricher un peu. De mentir un peu, de se valoriser artificiellement, et à un moment ça se voit. Et à ce moment-là, Narcisse tombe de son piédestal.
Et ça fait mal.
Et ça fait très mal.
Bonjour Madeleine, bienvenue, vous appelez du Val d'Oise.
Oui, bonjour. Coralie. Eh bien, je suis ravie de vous avoir parce que vos émissions sont toujours très bien faites.
Vous flattez mon égo, là, Madeleine.
Faut pas lui dire ça.
Alors, on écoute votre question, Madeleine.
Alors, ma question, elle est très simple. Moi, je m'étonne devant ces quantités phénoménales de gens qui étalent complaisamment leur vie sur les réseaux sociaux. Et je me demande... D'abord, si ça, ce n'est pas du narcissisme, alors qu'est-ce que ça peut bien être? Et je me demande également, qu'est-ce qui peut bien manquer à tous ces gens pour qu'ils éprouvent ce besoin irrépressible d'étaler le moindre détail, le moindre petit incident de leur vie aux yeux du monde entier?
Eh bien, je vais dans votre sens également, Madeleine, Marie-France Rigoyen, Christophe André.
Je crois que si on a besoin d'afficher toutes ces petites choses de la vie, c'est parce qu'au fond, à l'intérieur, on n'est rien, on est creux. Et que, comme il faut faire illusion, on fait illusion avec ce que l'on peut, et même si c'est pas grand-chose, on l'exhibe. Toute la difficulté, et ça serait la sagesse, ça serait de s'accepter tel que l'on est, de s'interroger sur soi, et d'avoir un peu plus de modestie pour s'accepter globalement, y compris avec ses défauts.
Christophe André.
Oui. Et je crois qu'en plus, sur les réseaux sociaux, il y a peut-être autre chose que du narcissisme. Bien sûr, il y a le désir de prouver aux autres qu'on a une belle vie, etc., etc., et plus belle que la leur, mais il y a aussi parfois un simple mimétisme. J'ai peur, et je fais comme les autres parce que j'ai peur d'être largué dans la course à la reconnaissance, j'ai peur qu'on croie que je suis un loser, que j'ai une moins belle vie, et donc je rentre dans ce système, alors qu'au départ, si j'avais pas été exposé à ça, peut-être je serais pas parti dans cette spirale.
Merci beaucoup, Madeleine, pour votre question. Alors, est-ce qu'il est encore possible de stopper net cette épidémie de narcissisme, Marie-France Rigoyen?
Moi, je crois qu'il y a déjà...
Quelles sont les raisons d'espérer?
Oui, mais je crois qu'il y a déjà un changement qui se met en place. Je vois de plus en plus de jeunes qui ne sont pas dans la consommation, dans la valorisation de soi, mais qui sont beaucoup plus dans le partage, qui ne cherchent pas à être dans le toujours plus. Alors ce mouvement-là est, me semble-t-il, réservé à un groupe plutôt éduqué ou qui ont été bien cadrés par leurs parents et qui, je pense, sont beaucoup plus modestes.
Mais ça va prendre de l'ampleur.
Mais ça va prendre de l'ampleur parce que... Par ailleurs, il y a un conformisme social, ce que venait de dire Christophe, un conformisme social qui est qu'il faut se donner à voir, sinon on n'existe pas.
Christophe André, il y a beaucoup de questions. Que faire à titre individuel quand on est confronté à une personnalité narcissique?
Ah, ça c'est... Il faut qu'on est reparti pour une autre émission.
Oui, on en fera une d'ailleurs. J'ai cette phrase des nuls en tête. L'homme qui pétait plus haut que son cul a un peu de merde derrière les oreilles.
Bon, ça c'est vous qui le dites.
En d'autres termes, Christophe André, comment on pourrait...
Déjà, il y a ce que nous disait la première auditrice qui avait appelé tout à l'heure, Laetitia, protégez-vous. C'est-à-dire, faire attention tout de même, ce sont des personnes qui peuvent être assez agressives, assez méchantes, assez tordues dans leur façon de nous traiter. Après, il y a comprendre comment ça marche, un narcissique. Un narcissique, c'est quelqu'un qui, dès qu'il a le sentiment qu'on est en compétition avec lui, qu'on a des avantages qu'il n'a pas, qu'on a une plus belle voiture, que nos enfants ont mieux réussi à l'école, etc., va commencer à grimper au rideau. Donc, soyons discrets avec nos avantages, ne nous laisserons pas marcher sur les pieds concernant l'essentiel. Ça passe, si on commence à lâcher prise, on est cuit, on va servir de paillasson. Et puis, pensons aussi à nous protéger, à nous désengager parfois de ce type de relation quand c'est possible.
Merci beaucoup Marie-France Rigoyen. Je recommande vraiment Les Narcisses. C'est publié à La Découverte. Merci Christine Lapelle-Douel.
Merci Ali.
Le tout nouveau numéro de Psychologie Magazine avec Christophe André en une est actuellement en vente en kiosque et le dossier principal c'est comment l'esprit guérit le corps. Merci également Marie-Laure Sunshine de Femme Actuelle. Demain, journée spéciale sur France Inter consacrée au plastique. Le plastique non merci avec Combini. Nous verrons comment cette matière empoisonne notre quotidien. Est-il vraiment possible de se désintoxiquer de notre dépendance au plastique, alors que nous croulons sous les déchets plastiques, 01 45 24 7000, sans oublier la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. À la technique ce matin, Nicolas Cazot et Elisabeth Collet.